Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2h ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux partout dans le monde. À la une aujourd'hui, vendredi 21 mars, la lutte contre le sida, grand rendez-vous. SIDAction, il commence aujourd'hui et durera tout le week-end. Deux motifs d'inquiétude. Les conséquences des coupes budgétaires américaines sur tous les continents et le manque de connaissances des jeunes, notamment en Europe. Ils sont de moins en moins nombreux à connaître les risques, de moins en moins nombreux à se protéger aussi. On en parle avec notre invité dans trois quarts d'heure. Au sommaire également des dizaines de morts à Khartoum. L'armée soudanaise annonce avoir repris le contrôle de la capitale qui était aux mains des paramilitaires du général Emeti. Depuis 2 ans, des drones ont été tirés sur le palais présidentiel. Des journalistes touchés et les forces du général Emeti préviennent que le combat n'est pas terminé. On fait le point dans Afrique Midi, midi et demi temps universel.
RFI Midi.
Il l'avait promis, il l'a fait. Donald Trump a signé hier soir un décret supprimant le ministère de l'Éducation. Décision polémique, mais soutenue par quelques enseignants que notre correspondant a rencontrés à Atlanta.
Je trouve que ce qu'a fait le pays avec ce ministère est terrible pour les élèves en général, car je pense qu'il y a des endroits où l'argent fédéral pourrait être mieux dépensé pour améliorer les écoles. Mais la façon dont ils le font, en essayant d'avoir les mêmes standards pour tous les élèves dans chaque État, est irréaliste. Chaque État devrait s'en occuper, car ils comprennent mieux les besoins de leurs élèves et de leurs districts.
Reportage à écouter dans un tout petit peu moins d'une heure sur RFI. Nous verrons aussi ce qu'en pensent les journaux. Revue de presse dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques à partir de 13h, temps universel. Et tout de suite, pour commencer notre demi-heure européenne, on va parler de la mobilisation de l'opposition en Turquie après l'arrestation cette semaine du maire d'Istanbul et puis d'une première en Pologne, l'ouverture d'un centre dédié à l'avortement dans un pays extrêmement strict sur la question. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
Mais d'abord, on parle de ces images qui sont diffusées en boucle dans les médias britanniques, des flammes immenses s'élevant de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Des dizaines de pompiers sont sur place et en attendant que l'incendie soit maîtrisé, le courant est coupé, des centaines d'avions sont cloués au sol et les couloirs de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe désertés. Agnieszka Kumor, cet aéroport, Heathrow, c'est vraiment un point central du trafic aérien mondial.
Heathrow dessert en effet quelques 200 destinations. Tous les jours, 1300 avions en décollent et atterrissent. L'aéroport est fréquenté par 230 000 passagers. La panne d'électricité dont vous parlez à l'origine de la fermeture de l'aéroport est due à un important incendie à la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui alimente l'aéroport. Les causes de cet incendie ne sont pas connues. Les voyageurs sont en tout cas priés d'éviter à tout prix de rechercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne rouvre.
Oui, parce que les perturbations ont déjà commencé.
L'aéroport fermé, ce sont évidemment des retards et des annulations qui s'enchaînent. L'autre aéroport de Gatwick, au sud de Londres, dit avoir commencé à accepter des vols détournés. C'est aussi le cas de Francfort, en Allemagne ou de Roissy-Charles-de-Gaulle au nord-est de Paris. Certains avions, notamment en provenance de New York, ont été dirigés vers l'aéroport irlandais de Shannon. D'autres sont en revanche cloués au sol. Il faudra trouver des plans de vol plus tard, et aussi réserver des hôtels pour les voyageurs qui étaient parfois dans la zone d'embarquement quand ils ont appris la nouvelle.
Outre l'aéroport, Agnieszka, c'est aussi un grand nombre de foyers et d'entreprises locales qui sont affectés.
Oui, il reste sans courant. Au total, quelques 16 000 foyers sont affectés par cette panne, selon l'opérateur électrique. Alors, combien tout cela va-t-il coûter? Il est encore trop tôt pour le dire. On sait en revanche qu'une méga panne de contrôle aérien survenue à Heathrow en août 2023, qui a causé l'annulation de 2000 vols et a touché 700 000 passagers, a coûté aux compagnies aériennes près de 120 millions d'euros en indemnité.
Agnieszka Kumor.
RFI, l'Europe à midi.
Oh, Des gaz lacrymogènes, des canons à eau contre les manifestants hier soir en Turquie. Beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Des milliers de personnes rassemblées dans plusieurs grandes villes et notamment à Istanbul pour soutenir leur maire. Ekrem İmamoğlu, opposant numéro 1 à Recep Tayyip Erdogan, très populaire et arrêté avant-hier. Un autre rassemblement est déjà prévu ce soir et le chef du parti a prévenu que l'opposition continuerait.
Cette foule, ces jeunes ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas de combat. Cette foule veut la paix, l'égalité. Il est inconcevable d'attaquer ces jeunes, de confronter nos policiers avec des ordres illégaux. Vous allez relâcher ces jeunes. Nous marcherons, nous remplirons la place jusqu'au moindre interstice. Nous ne reconnaîtrons aucune barricade, ni aucun obstacle.
La détermination de l'opposition turque à l'approche des primaires du parti CHP, les premières de l'histoire pour ce mouvement politique, ce sera dimanche et Ekrem İmamoğlu devrait y être désigné candidat pour la prochaine présidentielle. Il est notre Européen de la semaine. Votre choix, Romain Le Maresquier. L'homme n'a pas la prestance ni la verve de son grand rival, le président Erdogan, et pourtant, il est largement soutenu en Turquie et il fait l'objet, on le voit, d'un véritable acharnement de la justice turque.
Oui, la raison est très simple. Aujourd'hui, si une élection présidentielle devait être organisée, Ekrem İmamoğlu s'imposerait largement, comme le montrent les derniers sondages. Et le pouvoir, qui est aux mains de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, n'a que justement la justice qu'il instrumentalise pour l'empêcher de s'imposer.
Et qui plus est, Romain, le président Erdogan n'a pas le droit, constitutionnellement parlant, de se présenter de nouveau pour un troisième mandat.
Oui, donc ce serait a priori un adversaire bien moins populaire qu'affronterait Ekrem İmamoğlu. Il aurait donc un boulevard devant lui, et si d'aventure il était élu à la tête du pays, ce serait une catastrophe pour le régime de Recep Tayyip Erdogan, comme l'explique Ahmet İnsel, politologue, ancien maître de conférence à l'université Paris 1 et ancien professeur à l'université de Galatasaray à Istanbul.
C'est l'homme qui mettrait fin, s'il est élu, il va être élu dans un régime autocratique taillé sur mesure pour Tayyip Erdogan, et donc du coup il va disposer les pleins pouvoirs que dispose aujourd'hui Tayyip Erdogan. C'est une déflagration totale du système d'Erdogan. D'abord, probablement des enquêtes sur les malversations qui vont s'ouvrir sur les entreprises, les familles qui sont proches d'Erdogan et qu'on soupçonne énormément de détournement de fonds ou de corruption. C'est un danger réel pour le régime autocratique de Tayyip Erdogan.
Alors comment Ekrem İmamoğlu est-il parvenu à devenir aussi populaire? Parce qu'il y a quelques années, en 2019 par exemple, avant qu'il ne soit élu pour la première fois à la mairie d'Istanbul, on disait de lui qu'il n'avait pas de charisme, que ce n'était pas un bon tribun.
Eh bien c'était le cas en 2019, mais depuis le personnage a évolué et la ferveur qu'il a accompagnée après sa première élection a certainement eu un effet sur lui. En 2024, il a été réélu maire d'Istanbul, cette fois avec 10 points d'avance sur son concurrent de l'AKP, preuve qu'il rassemble. Et puis il séduit aussi des électeurs qui ne votent pas traditionnellement pour le CHP. Comme l'explique Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, son rapport à la religion, une question primordiale en Turquie, y est pour quelque chose.
Il a une perception et une approche extrêmement décontractée par rapport aux questions de l'islam. Je parle de l'islam en tant que pratique religieuse, je ne parle pas là de l'islam politique, donc il est un adversaire, puisque l'islam politique est incarné par Erdogan et son parti, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement. Donc, je me souviens par exemple que lors d'une de ses campagnes présidentielles, dans l'entre-deux-tours, il avait invité un imam dans un colloque pour les kémalistes, c'est presque le crime de lèse-majesté. Donc c'est quelqu'un qui tente de faire pas à pas évoluer la doctrine kémaliste, notamment dans son rapport à l'islam, dont on comprend bien que c'est un des dossiers essentiels de la vie politique en Turquie.
C'est donc ce rapport à la religion, mais aussi son modernisme qui correspond à celui de la société turque qui ont notamment permis à Ekrem İmamoğlu d'atteindre une telle cote de popularité aujourd'hui.
Sachant qu'il est aussi populaire, pourquoi est-ce que les autorités turques, la justice, se sont empressées de l'arrêter?
Eh bien, la justice s'acharne sur Ekrem İmamoğlu depuis des années maintenant. Il cumule une liste incroyable d'affaires et même si son arrestation cette semaine a surpris, on sentait que la pression montait ces derniers temps. Didier Billon.
Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'attaques dans la presse remettant en cause la validité de ces diplômes universitaires. Il faut savoir qu'en Turquie, il faut avoir un diplôme supérieur pour pouvoir se présenter à la présidence de la République. Donc visiblement, si ces de telles attaques sont fourbies contre lui, c'est qu'il gêne et c'est que c'est un candidat sérieux et un concurrent sérieux par rapport à Erdogan.
Alors si la pression sur İmamoğlu était de plus en plus forte ces derniers temps, son arrestation cette semaine traduit, selon Ahmet İnsel, la peur qu'ont les autorités du maire d'Istanbul.
Le pouvoir est un peu dans la panique. avec la mise en place des primaires, la popularité de İmamoğlu commençait à dépasser sa popularité traditionnelle et donc du coup le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucun moyen politique d'arrêter sa montée. Mais en revanche, en Turquie, ce type d'acharnement du gouvernement rend la personne encore plus populaire. Donc du coup, je crois qu'aujourd'hui, Tayyip Erdoğan a vraiment créé son rival. Même depuis la prison, İmamoğlu peut continuer à peser massivement sur les prochaines évolutions politiques.
Alors désormais, c'est un peu l'inconnu hein, qui attend Ekrem İmamoğlu. Son parti, le CHP, a confirmé la tenue de la primaire ce dimanche. La direction du parti a même décidé d'ouvrir le scrutin aux non-adhérents du parti. Ekrem İmamoğlu pourrait donc être désigné candidat du CHP pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2028. Mais sera-t-il encore en prison ou les autorités vont-elles plier sous le poids de la pression populaire? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Romain Lemaresquier, mobilisation donc en Turquie et protestation aussi, toujours en Serbie, les étudiants à l'origine du mouvement reçoivent aujourd'hui un soutien international, celui de 3000 intellectuels, économistes, sociologues, même astrophysiciens, et puis la prix Nobel de littérature Annie Ernaux. Tous expliquent que les demandes d'un état de droit, d'institutions fonctionnelles sont justifiées et même essentielles. Nous sommes en ligne avec Milica Kubrilo, correspondante du Courrier des Balkans et du journal Le Figaro à Belgrade. Bonjour.
Bonjour.
Cela fait des mois que ça dure, hein, depuis l'accident meurtrier survenu dans la gare tout juste rénovée de Novi Sad, qui est devenu un symbole de l'incurie, de la corruption des autorités. Il y a eu samedi dernier une manifestation jamais vue. Et hier, on a entendu le Conseil de l'Europe dire sa préoccupation. Est-ce que les étudiants qui sont qui mènent cette contestation attendent quelque chose de l'Europe?
Non, aujourd'hui les étudiants n'attendent vraiment rien de l'Europe. On ne voit pas un seul drapeau européen dans les manifestations. Ça fait longtemps que la société serbe, qui est pourtant en majorité pro-européenne, est déçue par l'attitude de notamment la Commission européenne, qui finalement finit par soutenir le président Vučić malgré son autoritarisme, mais en échange de promesses de lithium, de vente de Rafale, etc.
Vous parlez d'autoritarisme du président Vučić. Il y a eu plusieurs tentatives d'intimidation au cours des dernières semaines. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas cette fois-ci et qu'il y a quand même des milliers de personnes dans les rues?
Et disons que cette fois, les gens se sont débarrassés de la peur. C'était tout le but des étudiants qui ont mené ces manifestations depuis plus de 4 mois maintenant. Ils ont réussi à détourner finalement le blocus médiatique en marchant dans le pays. C'était comme des pèlerinages. Les étudiants ont traversé le pays de long en large à pied et ont ainsi gagné le soutien de la population qui les accueillait en liesse le long du chemin. Et ça a permis à la population de se débarrasser de la peur. C'était le but des étudiants. Aujourd'hui, les étudiants disent « Nous, on peut plus continuer tout seul, on a besoin de vous ». Et depuis la manifestation historique de samedi dernier, notamment également à cause de l'utilisation de canons à son, qui est aujourd'hui assez évidente, même si le pouvoir continue à le nier, la population, les citoyens s'organisent de manière décentralisée et continuent à manifester.
Alors, vous nous parlez donc de cette mobilisation qui perdure et du rôle que jouent les étudiants. Pour l'instant, la mobilisation est non partisane. Est-ce que ces étudiants peuvent continuer à se passer d'appui politique?
Hier, j'ai interviewé plusieurs étudiants qui m'ont dit que c'est aujourd'hui à l'ordre du jour comme le point le plus important des plénums. Les plénums sont ces assemblées des étudiants qui, pendant lesquelles ils s'organisent, ils votent et ils décident de leurs futures actions. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui à un point de rupture. L'opposition ainsi qu'un certain nombre d'intellectuels ont proposé un gouvernement de transition, ce que le pouvoir refuse. D'autres ont proposé un gouvernement d'experts. C'est en discussion parce qu'effectivement, les enseignants qui sont le soutien le plus fort aux étudiants commencent à fatiguer parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus de salaire. Et les autres branches de la société ne se mettent pas suffisamment, ne se mettent pas suffisamment radicalement en grève pour que ce soutien soit véritablement clair et oblige un peu plus le pouvoir à céder.
Merci Milica Cobrillo, correspondante du Courrier des Balkans et du journal Le Figaro à Belgrade. Ailleurs en Europe, la presse revient aussi sur la Serbie et sur ce débat sur l'utilisation de canons à son que vous évoquiez. The Guardian nous rappelle que plus de 500 000 personnes ont signé une pétition appelant les procureurs serbes à recueillir les témoignages des personnes présentes en précisant que ces témoins devaient être protégés, la confidentialité garantie. Et puis, il demande d'informer le public des conclusions. Marasson en Espagne, titre sur la journée noire de Pedro Sanchez hier au Parlement, puisque ses partenaires politiques ont voté pour la sortie de l'Espagne de l'OTAN et l'opposition, elle, a renversé une loi sur la santé. Le Premier ministre savait que la législature allait être difficile, nous dit le quotidien, mais probablement pas si difficile que ça. Et puis dans un contexte de réforme du frein à l'endettement en Allemagne, le journal Die Zeit estime que la redistribution des jeunes vers les vieux doit cesser. Cela ne doit pas se faire au détriment de la jeune génération. Les baby-boomers doivent eux aussi se préparer à davantage de renoncements.
RFI, l'Europe à midi.
Reportage en Pologne où depuis 3 semaines maintenant, il existe un centre de soins exclusivement dédié à l'avortement. C'est le premier dans un pays où la législation sur la question est l'une des plus restrictives d'Europe. L'IVG est interdite en Pologne, sauf à de très rares exceptions, comme le viol ou bien un risque pour la vie de la mère. Ce centre, il est donc essentiel pour les femmes polonaises. C'est un symbole aussi, mais il fait l'objet de très fortes critiques de la part de militants anti-avortement. Certains se sont rassemblés devant le centre lors de l'inauguration à laquelle a assisté notre correspondant Adrien Sarla.
C'est une première en Pologne.
Je déclare le premier centre de consultation pour l'avortement en Pologne ouvert.
Un an après sa condamnation pour avoir aidé une femme à se procurer une pilule abortive, Justyna Wyczynska est fière d'inaugurer ce local. Les femmes qui le souhaitent pourront y venir avec leur propre pilule et bénéficier d'un accompagnement à l'IVG médicamenteuse.
On a toujours rêvé que l'avortement puisse ressembler à autre chose que ce que nous avons vécu, cette angoisse pour notre santé, avec la peur que la police vienne toquer à la porte. Et c'est pour cela que nous avons voulu créer ce lieu, pour que chaque femme qui vienne ici se sente entourée de gens de confiance.
Du simple conseil à l'accompagnement de l'IVG, ici les activistes entendent répondre à tous les besoins des femmes qui viennent leur rendre visite.
On leur offre un soutien psychologique si nécessaire ou des informations légales. Comment organiser une IVG à l'étranger, avec quelle organisation prendre contact, combien ça coûte. C'est exactement ce qu'on leur faisait jusqu'ici à travers nos réseaux sociaux et notre boîte mail, mais maintenant, on a un local pour ça. Les femmes qui n'ont pas la possibilité de réaliser leur IVG à la maison, par exemple si elles habitent avec une personne violente ou si les parents du conjoint sont contre leur décision, eh bien, elles pourront venir ici effectuer leur avortement avec nous.
En plus de l'accompagnement humain, la structure devrait aussi pouvoir financer l'avortement des femmes qui ne peuvent pas se le permettre. Vêtements, pins, gadgets, toute une partie du centre est dédiée à une sorte de concept store dont les recettes serviront à donner aux activistes les moyens de leurs ambitions.
Pour aider quelqu'un à avorter, on peut s'acheter des chaussettes à 49 zloty, soit 12 euros. C'est une offre spéciale pour les hommes qui nous demandent depuis des années comment ils peuvent se rendre utiles. Eh bien, en achetant des chaussettes, tu peux aider quelqu'un à avorter et ta contribution équivaut à 1/7 du coût total d'une IVG.
L'emplacement du local, lui, ne doit rien au hasard. Au 9 rue Wiejska, il fait face au Parlement, comme pour provoquer les élus. En juillet dernier, malgré les promesses de campagne de Donald Tusk, les députés ont voté contre la dépénalisation de l'aide à l'IVG. Une trahison, selon Natalia, qui prendra en charge les patients.
Ce qui nous différencie des politiques, c'est que nous, on veut vraiment la libéralisation de l'avortement. Et nous n'avons plus le temps d'attendre qu'ils se mettent d'accord. Donald Tusk a dit qu'il promettait aux femmes de ne pas poursuivre celles qui les aideraient à avorter. Alors c'est ce qu'on va voir. Cet endroit, c'est à la fois un lieu de solidarité et un gros fuck you aux politiques.
Un ton de défi auquel n'ont pas manqué de réagir les militants anti-avortement qui ont fait de Natalia et ses collègues leur bête noire. Ils sont nombreux à s'être massés devant le centre ce matin pour en bloquer l'accès. Sur leurs pancartes, des photos de fœtus avortés et des portraits d'Hitler. Et dans leurs enceintes, des hurlements de nourrissons à l'agonie.
Pourvu que ce soit la première et la dernière clinique de ce genre.
Lydia, 21 ans, hurle sa colère dans un mégaphone. Devant elle, un bébé en plastique recouvert de sang, la tête en bas dans un seau en métal, symbole de la prétendue barbarie de l'avortement.
L'avortement va à l'encontre de chacune de nos valeurs et des principes qui font la Pologne. Les valeurs d'une certaine civilisation qui remonte au christianisme. On comprend que les femmes cherchent des solutions et veulent avoir le choix. Mais j'aurais voulu qu'ils créent une clinique pour aider les femmes enceintes, pour qu'elles aient un soutien matériel et financier pour élever leur bébé, qu'elles ne se sentent pas obligées de prendre la pilule et de souffrir.
À l'intérieur, personne n'est vraiment surpris par cette opposition virulente, car le sujet de l'avortement reste encore très tabou en Pologne. À 28 ans, Marta en a elle-même fait l'expérience il y a 2 ans, lorsqu'elle a dû faire 7 heures de route pour aller avorter de l'autre côté de la frontière, en République tchèque. À l'époque, elle n'a pas osé tenter l'IVG médicamenteuse chez elle, à cause d'un manque d'informations. L'intervention lui a coûté 500 euros, sans compter les frais de déplacement.
Si un tel lieu avait existé il y a 2 ans, c'est sûr, je n'aurais pas hésité. J'aurais pris la pilule abortive. Je serais venue ici pour être dans un bon environnement, au milieu de femmes qui auraient pu m'aider, me soutenir et m'entourer. C'est un endroit qui aurait dû être créé il y a déjà des années en Pologne, pour que les femmes se sentent en sécurité, car plus de 130 femmes avortent seules chaque jour, dans le silence, à la maison et parfois dans la plus grande solitude.
L'année dernière, les hôpitaux polonais ont recensé moins de 800 avortements au total. Les activistes, elles, assurent avoir aidé plus de 47 000 Polonaises à interrompre leur grossesse en un an. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
L'intelligence artificielle version Meta arrive en Europe. L'interface du groupe de Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, est centrée sur la génération de textes. Notamment car les règles européennes ont contraint l'entreprise à renoncer à la possibilité de créer des images, Dominique Dezonnet.
Oui, disponible dans 6 langues, la firme américaine Meta annonce déployer son assistant IA dans 41 pays de l'UE, en commençant par la France et l'Allemagne, ainsi que dans 21 territoires d'outre-mer liés à l'Union européenne. Un déploiement qui sera réalisé de façon très progressive au cours des prochaines semaines, prévient toutefois l'entreprise dans son communiqué. Concrètement, ce robot conversationnel de type génératif est capable de répondre aux questions des utilisateurs en générant des textes, comme le fait son concurrent ChatGPT d'OpenAI. Le programme a par ailleurs accès au moteur de recherche sur Internet pour actualiser ses réponses. Pour activer ce service, il n'y a rien de plus simple. Son installation est automatique. L'utilisateur devra ensuite cliquer sur une icône représentant un cercle bleu sur Messenger, Instagram, Facebook ou sur WhatsApp. Et pour utiliser le programme, vous devrez écrire @MetaAI avant de formuler votre requête. Du grand classique, en quelque sorte. La firme américaine avait jusqu'ici suspendu le déploiement de son IA dans l'UE en invoquant le manque de visibilité sur les règlements qui encadrent le numérique en Europe, des législations que le patron de Meta jugeait comme fragmentées ou mises en œuvre incohérentes et qui freinaient l'innovation. Mais finalement, après mûre réflexion et sans doute des tractations avec les régulateurs, Meta AI débarque en Europe.
Alors, selon le patron de Meta, son robot conversationnel n'est pas qu'une IA générative de plus.
Effectivement, l'objectif poursuivi par la firme est de lancer à terme un écosystème numérique complet et ouvert à tous pour concevoir des agents intelligents. Les entreprises, les créateurs de contenu, les chercheurs ou les particuliers pourront ainsi configurer et adapter leur propre robot IA, expliqué récemment en visioconférence Mark Zuckerberg.
Au final, ce n'est pas juste une technologie, c'est un écosystème que vous développez. Dans la prochaine génération de technologies autour de l'intelligence artificielle, comment créons-nous non seulement un ensemble florissant de produits et de gains de productivité économique, mais comment avoir une meilleure économie politique plus durable autour de cela? Et vous savez, je pense que nous avons fait ça raisonnablement bien avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il sera important de faire encore mieux avec l'intelligence artificielle pour atténuer certaines des préoccupations que les gens vont avoir sur ce que cela va signifier pour leurs moyens de subsistance, leurs emplois et leur vie.
Meta prévoit d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars dès cette année pour soutenir le lancement de ce programme.
Oui, cet investissement servira en bonne partie à développer des centres de données, des serveurs informatiques et des infrastructures réseau. Et si Meta a fait de l'IA sa priorité, le groupe n'oublie pas de faire en sorte que les milliards d'abonnés aux services numériques de la firme restent captifs dans leurs propres réseaux sociaux quand ils utiliseront ces applications IA.
Ah. Un monde de tech. Merci Dominique Dezonnet. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, l'écrivaine Jean J. Dominique, d'origine haïtienne, pays qui occupe une place centrale dans son œuvre. Elle est installée depuis plusieurs années dans la province canadienne de Québec. Jean J. Dominique parle de « Tu nous manques », son nouveau roman, à Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean J. Dominique.
Bonjour Catherine.
Vous avez dû quitter Haïti il y a plus de 20 ans et pourtant ce pays est toujours au centre de votre écriture. Pourquoi ?
Parce que on peut quitter Haïti, mais Haïti ne vous quitte jamais. Et je ne suis pas la seule. Il y a même des non-haïtiens qui découvrent le pays, qui découvrent les Haïtiens du pays et qui, comme on dit au Québec, tombent en amour avec Haïti. Donc, l'histoire tragique d'Haïti aussi fait qu'il est difficile d'oublier le pays, d'oublier ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu. Et c'est pourquoi je n'arrive pas. On me demande souvent, tu veux pas écrire autre chose ? J'aimerais bien écrire autre chose, mais je n'arrive pas.
Et depuis 20 ans, vous avez pu y retourner ?
On a pu y retourner quelques fois, jusqu'au moment où les gangs ont commencé avec la violence aveugle. À ce moment-là, on n'y est plus retourné.
Et vous qui vivez au Québec, qui écrivez en français, quel est votre lien aujourd'hui avec la langue créole ?
Je fais partie de la toute faible minorité d'Haïtiens dont la langue maternelle est à la fois le créole et le français. J'ai été élevée, donc, dans une famille francophone, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes compatriotes. Donc, quand il a fallu pour moi écrire spontanément, c'est le français, puisque c'est dans cette langue que j'ai lu. J'ai toujours énormément lu, donc c'était pour moi naturel. Et, dernière chose amusante, j'ai appris à écrire le créole à l'Université de Montréal. Parce que j'ai eu un cours de linguistique. Le prof québécois, quand il a su que j'étais haïtienne, il m'a dit « Mais vous parlez créole ?» J'ai dit « Bien oui, je parle créole. » Il m'a dit « Oh, j'aimerais que vous travailliez avec moi. » J'ai dit « Mais je suis désolée, je n'écris pas. Je n'ai jamais appris à l'écrire. » Il m'a dit « Je vais vous montrer. » C'est lui qui m'a montré à écrire le créole, ce qui m'a servi pendant mes années de journalisme où j'ai travaillé en créole et j'ai même été prof de créole au secondaire en Haïti parce que ça me passionnait d'apprendre cette langue à des jeunes en leur donnant la chance que moi je n'avais pas eue.
Est-ce que c'est une langue que vous continuez de parler ?
Oh oui, tous les jours.
Avec qui ?
Tous les jours, avec mon compagnon, avec mon fils, avec mes amis haïtiens. Et comme l'infirmière, quand j'ai été opérée, m'a dit, c'est quoi ce charabia quand je me suis réveillée ? Parce que en sortant de la salle d'opération, dans la salle du réveil, je parlais en créole. Parce que j'étais dans les vapes. Et l'infirmière québécoise m'a dit, mais vous parlez charabia ? J'ai dit, non, je parle créole.
Et vous disiez quoi ?
Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est comme dans mes rêves, je rêve en français, je rêve en créole. Je suis parfaite bilingue à ce niveau-là.
Vous êtes donc au cœur de la francophonie, la langue française, la langue québécoise et la langue créole.
Absolument.
Merci beaucoup Jean-J. Dominique d'être venu nous parler de ce nouveau roman qui s'intitule « Tu nous manques » et qui a paru aux éditions Remue Ménage.
C'est moi qui vous remercie Catherine.
Vous pourrez écouter davantage Jean-J. Dominique. Tout à l'heure, elle est l'invitée de l'émission Littérature sans frontières à partir de 13h30, temps universel. Avant cela, à 12h30, toujours en temps universel, l'actualité africaine avec vous Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une aujourd'hui.
2 ans après en avoir été chassée, l'armée soudanaise a annoncé ce matin avoir repris le palais présidentiel dans le centre de Khartoum. La bataille n'est pas terminée, assurent les milices FSR qui parlent de leur côté de dizaines de morts. Et puis en Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwa a été investie présidente ce matin, une première dans la jeune histoire de ce pays d'Afrique australe.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr.
Du 15 au 23 mars, la Semaine de la langue française et de la francophonie invite à célébrer la langue française autour du thème « Prenez la parole ». Dictées, jeux, ateliers, spectacles, quiz, participez aux événements organisés en France et dans le monde. Une édition 2025 proposée par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur culture.gouv.fr en partenariat avec France Média Monde.